Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, qui vise à faire connaître et à défendre et à promouvoir l'universalité des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme. Et comme Canal M, elle s'intéresse aussi à des questions d'accès à la culture. Pour nous en parler davantage, je reçois en studio M. Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés et professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal, et au téléphone, Mme Gabriela Quinté, auteure et libraire et fondatrice de la librairie Racine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, M. Nadeau. D'abord, ce nouveau dossier de la Ligue des droits la Ligue des droits et libertés, pardon, c'est le droit culturel et le droit à la culture. C'est le nouveau sujet. Les dossiers précédents faisaient beaucoup référence à des questions d'actualité, le racisme par exemple, la question des droits des réfugiés avec la crise syrienne qu'on connaît. Pourquoi cet intérêt envers les droits culturels?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première étant que les droits culturels très souvent sont négligés et que le principe d'interdépendance des droits, en fait, ce qui nous permet de mieux voir, c'est que des questions comme celles des droits culturels ou celles des libertés civiles ou celles des droits sociaux ne devraient jamais être pensées en vase clos, ne devraient jamais être pensées en parallèle les unes des autres. Et très souvent, en fait, lorsqu'on pense droit, on va, dans l'esprit des gens, penser d'abord et avant tout aux libertés civiles, sans penser aux droits sociaux ou aux droits culturels. Et à la Ligue, nous avons à cœur de bien mettre en valeur ces principes d'interdépendance, mais ça nous oblige aussi à aller vers des questions que nous n'avions pas abordées jusqu'ici, comme celle des droits culturels. Et je dirais que c'est une manière aussi, par les droits culturels, de parler d'une certaine manière de la culture des droits, ce qui devrait se développer par la suite chez nous.
Mmh. Et dites-nous la différence entre droit culturel et droit à la culture.
Alors, la différence peut être assez floue, mais je dirais que droit culturel, on parle par exemple de conventions internationales, on parle aussi de droit collectif, on parle par exemple de droit linguistique, et l'accès à la culture, ou droit à l'accès à la culture, c'est tout ce qui permet de faire en sorte que même si les droits, comme par exemple les droits culturels existent, il y a un véritable accès, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir à la fois la possibilité pour les gens de rencontrer cette culture, mais aussi d'y participer. Et ça, c'est un élément extrêmement important.
Justement, Gabriela Quinté, vous participez à rendre la culture plus accessible, notamment dans votre quartier, Montréal-Nord. Vous êtes présente de différentes manières auprès des organismes, auprès de plusieurs jeunes. Comment concrètement vous apportez la culture?
En fait, présentement, je travaille sur l'ouverture d'une librairie qui a comme mandat premier de mettre de l'avant les auteurs racisés, c'est-à-dire tous les auteurs non blancs, les auteurs noirs, asiatiques, arabes, etc. Pourquoi dans un quartier comme Montréal-Nord? Justement, parce que lorsque M. Nadeau parlait de rendre accessible, mais moi, quand j'habite à Montréal-Nord, je trouve que les endroits comme la librairie, c'est pas accessible dans le sens que c'est loin. C'est souvent dans les grands centres, comme au centre-ville, le plateau Mont-Royal, les musées, les expositions. Tout se passait loin de mon quartier. Je me trouvais dans la marge, je trouvais que j'étais exclue. Donc, j'essaie de rapporter des initiatives culturelles dans un quartier populaire, comme Montréal.
Et justement, cette librairie, dont le nom est Racine, va ouvrir le 5 août prochain. C'est un lieu pour mettre en valeur, comme vous le disiez, les artistes racisés, mais de différentes manières. Ce n'est pas seulement la littérature qu'on va trouver entre vos murs.
Non, effectivement, il va y avoir aussi des produits artisanaux, tout qu'est-ce qui a rapport à... Quand je parle de culture, je parle aussi des langues traditionnelles, des danses traditionnelles. Donc, on veut qu'il y ait des ateliers, tout qu'est-ce qui a rapport aux cultures qui ne sont pas dominantes. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent dans les musées ou qu'est-ce qui est offert par rapport à la culture, c'est souvent par rapport à une culture où des personnes racisées ne se reconnaissent pas nécessairement.
Et Monsieur Nadeau, dans votre éditorial sur ce dossier, vous l'évoquez que la culture peut à la fois être un outil de domination comme un outil d'émancipation. Mm-hmm. Et dans le dossier, vous êtes allé chercher différents auteurs, différents textes pour montrer justement différents moyens d'émancipation. Mm-hmm. Donnez-nous quelques exemples des sujets qui sont abordés.
Alors, y en a plusieurs. Il y a des aspects qui sont plus critiques, comme par exemple le texte de Yannick Marcil sur la marchandisation de l'art, c'est-à-dire cette manière de voir le domaine des arts essentiellement sous la tutelle d'un mécénat, et d'un mécénat qui dicte en quelque sorte ses règles, à la fois ses règles de marché et ses règles de diffusion. Il y a des textes sur la notion même de droit culturel, par exemple le texte de Georges Leroux, le texte de mon collègue de l'UQAM, Pierre Bosset, qui ont une vocation, disons, plus juridique. Il y a des textes qui portent, nous allons en reparler, je l'espère, sur la question de la langue des signes. Il y a des textes aussi sur la diversité culturelle et sur, disons, l'idée selon laquelle, très souvent, en fait, il y a un type de promotion d'une certaine diversité culturelle qui vise en réalité à marginaliser les personnes, c'est-à-dire en leur demandant de jouer un rôle particulier. Par exemple, je ne sais pas, on va demander par exemple à l'aide des personnes racisées d'incarner toujours des chauffeurs de taxi ou ce genre de choses, donc ce genre de cliché, si vous voulez. Et là, ça rejoint ce que Gabriel Kentus vient de dire, c'est-à-dire qu'on se retrouve en fait par la culture, non pas à viser l'émancipation, mais à favoriser des lieux de domination, c'est-à-dire en concentrant d'une certaine manière un certain type d'activité dans certains lieux, ou dans, à la fois dans des lieux géographiques, mais aussi dans des lieux en termes de, disons, de rapports de domination, si vous voulez, donc des classes sociales, par exemple. Et du coup, ce qui est perdu, c'est justement la capacité d'émancipation. Donc ce qu'on peut espérer, en fait, c'est qu'à la fois il y a un éclatement des lieux de production et de diffusion et de participation de la culture, qu'il y en ait partout, mais qu'il y ait aussi une meilleure distribution à l'intérieur de tous les secteurs de la société.
Gabriela Quinte, je vais rebondir un peu sur ce que M. Nadeau dit. Dans votre expérience, dans votre parcours, entre autres en travaillant avec des jeunes, vous avez découvert que en fait, il y a plusieurs types de cultures et qui sont souvent très marginalisées. Par exemple, le hip-hop, qui est très présent chez plein de jeunes, plein de communautés culturelles, et qui est souvent très, très marginalisé, qui est pas mainstream, qu'on va dire. Qu'est-ce que vous avez découvert auprès de ces jeunes-là, auprès des gens de Montréal-Nord au niveau artistique? Quel talent artistique vous avez découvert?
Bien, d'abord, j'ai découvert qu'il y a beaucoup plus de talent qu'on le pense. C'est juste que ça dépend de notre conception de la culture. Comme que vous l'avez nommé, il y a la culture hip-hop, mais c'est pas pour tout le monde que les personnes, les rappeurs, par exemple, des quartiers populaires, c'est pas pour tout le monde pour qui ces gens-là, c'est des poètes. Tandis que pour moi, lorsque je lisais des textes de certains jeunes, je trouvais que c'était magnifique. Je trouvais aussi qu'il y a des chansons rap qui font des références justement à Shakespeare ou à d'autres personnes, mais que la tribune que l'on donne à ces gens-là, ces auteurs-là, parce que pour moi, je les considère comme des auteurs, ceux qui écrivent du rap, elle n'est pas la même. Donc, moi, j'essaie de mettre avec Racine de l'avant une culture autre, de mettre de l'avant le hip-hop, tout ce que les personnes du quartier trouvent que c'est culturel, mais qui n'est pas accepté. C'est pas nécessairement associé à la culture qu'on met de l'avant.
Mm-hmm. Et je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour aborder, M. Nadeau, ce texte de Tiphaine Giraud et Julie Châteauvert, « Droit culturel des peuples de langue des signes mm-hmm. ». On sait que c'est une préoccupation. L'offre culturelle se rend moins aux personnes malentendantes, justement. De quoi il est question dans ce texte?
Un élément qui me semble essentiel, en fait, c'est l'approche, encore une fois, par les droits, c'est-à-dire de voir ça non pas comme quelque chose que nous pourrions faire, c'est-à-dire rendre la culture accessible aux personnes malentendantes uniquement si nous en avons les moyens, ou tu vois, un peu comme si c'était de la vertu, finalement, comme si c'était quelque chose qu'on fait parce qu'on est des bonnes personnes, tu vois, alors que c'est une question de justice. Alors, de la même façon que, je sais pas moi, par exemple, des toilettes pour personnes handicapées, ce n'est pas une question c'est pas une question de bonne personne ou non, c'est une question de justice. L'autre élément, c'est de montrer aussi que à partir du moment où on veut développer quelque chose qui est de l'ordre d'une culture de la langue des signes, alors on ne devrait pas aborder celle-ci à partir, disons, de ce que nous pourrions croire être un handicap, quelque chose qui serait en moins et que nous compenserions en le reconnaissant. Non, c'est tout simplement, on reconnaît des personnes, mais des personnes dont la participation à la culture, elle, ne sera pas reconnue. Donc, ce qu'on va faire, en fait, ce n'est pas, disons, encore une fois, compenser d'une certaine manière un handicap. En fait, ce qu'il faut, c'est corriger notre handicap à ne pas reconnaître la valeur intrinsèque de personnes qui participent, pleinement à la culture comme n'importe quelle autre personne.
Merci beaucoup vraiment pour vos propos aujourd'hui, très intéressants. Gabriela Quinté, auteure et libraire, je rappelle que vous êtes la fondatrice de la librairie Racine qui ouvrira ses portes le 5 août prochain. Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés, merci beaucoup d'avoir été
Merci.
avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous.